Les lectures de Radio Poivron. Bonjour et bienvenue à cette lecture de la nouvelle « Entre les écailles éclos l'espoir » écrit par Zeph Dangle, tiré du recueil « Histoire de fleurs » publié aux éditions Ibi. Cette lecture dure 35 minutes et abordera les thèmes suivants. La dépression et le deuil, il sera aussi fait mention d'atteintes corporelles infligées à soi-même et de comportements autodestructeurs, ainsi que quelques évocations d'apocalypse, maladie, est mort. C'est Naël qui est le conteur de cette histoire. C'est la première fois qu'il lit un texte à la radio. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours par mail ou via les réseaux sociaux que vous trouverez sur la page à propos du site de la radio. Bonne écoute.
Ce matin, la jambe de Théo ne lui fait pas trop mal. L'étau sur son crâne paraît même léger. Une bonne journée en perspective, peut-être sans tempête. Yael reste quelques instants sous son drap, les paupières closes, à écouter le ululement du vent au dehors, les caquettements discrets des poules dans le hangar, le battement de son propre cœur. Yael essaye de se rappeler les réveils au creux d'une étreinte humaine, tiède et rassurante. Mais le souvenir ne revient pas, sec et mort, et son absence blesse plus encore que le manque. Lentement, Théo ouvre les yeux sur le plafond blanchi à la chaux de son alcôve. Les murs sont percés d'étagères où Yael a accumulé sa vie entière. De belles pierres, quelques livres, des trésors que d'aucuns considéreraient comme des débris. Yael se redresse grâce à la barre du lit, pose son bon pied au sol, puis le mauvais. Étincelle de douleur qui lui escalade le mollet. Explose au genou, se diffuse dans la cuisse. Rien de bien méchant, en somme, songe-t-il en grinçant des dents. Une seule béquille suffira pour l'instant. Yael écarte la tenture qui sépare son couchage de sa petite cuisine troglodyte. Les volets occultent la lumière extérieure, mais elle filtre par raies brûlants et chatoyants. Sans les murs épais de la colline, la pièce serait une fournaise malgré l'heure matinale. Un soir, Théo avait laissé ouverte la porte du hangar et s'est réveillé trempé de sueur, et les poules avaient mangé une partie de sa réserve de pain. Déjà, le monde semble avoir oublié les jours de pluie qui se sont succédés pour la première fois depuis des années. La terre battue est fraîche sous ses pieds nus. Elle apaise un peu les lancements dans ses muscles. Théo clopine au fond de la cuisine jusqu'à l'entrée de la serre, où Yael actionne le goutte à goutte avant de préparer machinalement sa décoction du matin, puis entreprend de se débarbouiller à l'évier pendant qu'elle chauffe. Ensuite, battre les œufs, dénoyauter les petites prunes du verger, cuire le riz. Vivement la fin du mois, qu'Hermé lui apporte du pain et de la viande séchée. Peut-être même du fromage. Ce serait l'occasion de lui présenter la menthe, d'échanger les nouvelles de la ville contre celles du vent et les caresses contre les baisers. Théo s'assied enfin, mange sans entrain les fruits acides et le riz fade. Mais une fois le repas et la tisane avalés, sa migraine matinale se dissipe et ses articulations la lancent moins. Yael s'autorise quelques noix et noisettes, histoire de varier un peu. Après avoir essuyé ses couverts, Yael prend le temps de nettoyer l'autel sur lequel trônent les photos de Maury et Pop, ses épouses. Débarrasser les cendres, les pétales séchés, éviter les regards tendres et les sourires. Puis, Théo enfile ses sabots et, un bol d'épluchure sous le bras, s'en va nourrir les poules. La lourde porte glisse en brinque-ballant sur les rails. Malgré le vent, les volatiles ont dormi calmement et trottinent vers lui quand Yael rentre dans le garage. Le coq l'haletoise du haut de son perchoir, comme pour lui reprocher le bruit cinglant des bourrasques. Avec une grimace, Théo s'agenouille pour leur distribuer les restes des derniers repas et, en échange, dérobe quelques caresses dans leurs plumes. Après la collation, les volatiles seront plus enclines au contact. Théo disperse quelques poignées de grains avant son tour rituel du hangar. La rouquine couvre. Avec un peu de chance, cela veut dire des poussins dans une vingtaine de jours. Toutes les ouvertures sont bien scellées, pas de trous ou de signes de tunnels sous les murs de tôle. Le coq est descendu manger. Quelques œufs frais dans les perchoirs, moins que d'habitude. Il faudra voir qui donne moins et peut-être se résigner à l'abattre. Les œufs ramenés à la cuisine, Théo se dirige vers la serre, trésor de sa maison. La main posée sur la porte, Yael se recueille un instant. La vraie botaniste, c'était Pop. Et la bâtisseuse, c'était Maury. Théo venait avec ses livres, ses recettes, ses mots doux. Cette demeure, ce foyer pour résister à la fin du monde, c'était leur plan, leur tanière à elles trois. L'une tenait les murs, l'autre tenait les ventres. Elles en ont vu passer des égarés, des exilés, des expulsés, et pendant les années les plus difficiles, la ferme a hébergé 1000 vies, en a sauvé le double. Puis la pluie est revenue, une fois tous les quelques ans, et les habitantes de la région ont pu s'établir, et la fréquentation du refuge a décliné, en même temps que la santé de Pop. Travailler au milieu des pesticides pendant sa jeunesse avait fini par la rattraper. Se retrouver à tout apprendre et à ne plus avoir aucun don à partager, se retrouver sans personne pour tenir, ni à qui tenir. Hermé a fui l'humeur ombrageuse de Théo après la mort de Maury. La nourriture a un goût de cendre, et ses livres lui tombent des mains. Théo ne sait plus vraiment qui elle est. Et elle aurait voulu ne pas leur survivre, mais y aller infichue de faire autrement qu'avancer et continuer, même si sa vie ne tient presque plus que de la parodie de celle de Pop et Maury. Yael ouvre la porte de la serre. L'air moite se rue autour de lui, l'enlace et l'embrasse. Les insectes bourdonnent à ses oreilles. Le soleil lui écrase les yeux malgré les vitres teintées. Véritable serre de Babylone, les jardinières suspendues cliquettent au bout de leur chaîne. Plus de 200 espèces, peut-être 400 pieds, réunis en une harmonie fragile. Un travail quotidien pour maintenir les roues en état, celles qui permettent de descendre les pots pour les manipuler ou de les renvoyer à la lumière, et ainsi alterner leur position selon leurs besoins. Le faisceau d'arrosage est une merveille technologique. Théo le voit comme la chevelure de Pop qui nourrit ses protégés pour toujours. D'abord, Yael s'avance vers la menthe. Unique bourgeon à ne tenir que des lui, pas de Pop. Le fait qu'Yael l'ait aidé à pousser, seul depuis le début, lui a rendu la plante sympathique, et, rapidement, celle-ci a trouvé sa place dans sa routine. Yael avait acheté des graines jugées infertiles, mais a réussi à en tirer un maigre buisson. Tous les matins, Yael vient vérifier que la terre n'est pas trop sèche, ni trop humide, que les feuilles sont en bon état, et lui adresse quelques mots d'encouragement à la façon de Pop. Pour la première fois, le buisson est assez grand pour que Théo en prélève quelques tiges, puis Yael passe au reste de la serre. Tailler les branches mortes ou malades, leur parler, les soigner, chuchoter, balayer, s'assurer que des réserves d'engrais et le préparer pour la prochaine application. Chantonner un peu, saluer les abeilles et inspecter les ruches, récolter les fruits, les légumes et l'écosse, pleurer. Beaucoup aujourd'hui. Tant pis si toutes les tâches ne sont pas accomplies. Théo en a fait assez et sa jante n'en peut plus de s'accroupir et de se relever. L'air est presque clair dehors. Ce serait une journée idéale pour sortir. Peut-être dans l'après-midi. Trop écœuré pour manger son repas, Théo se décrasse en quelques gestes, puis s'isole dans son alcôve, loin de la lumière et du monde. Yael laisse son corps glisser vers la somnolence malgré la douleur, comme autant de petites encres fichées dans l'éveil. Sous ses paupières, les pensées défilent, bientôt sans rime ni raison, juste à la surface de sa conscience. Plus tard, Yael émerge. L'appétit ne lui est pas revenu, alors Yael enfile ses habits d'extérieur, ajuste son masque respiratoire, ses verres de protection et son casque anti-bruit. Ensuite, Yael sangle ses sacs, rabat sa capuche, une béquille attachée dans le dos, l'autre fermement tenue, puis Yael sort. Le vent lui arrache toute sensation du corps et broie les vêtements sur son torse. Il se calme, un instant, reprend avec moins d'ardeur. La poussière mitraille les lunettes, le blouson, les gants, la peau nue du cou. Le vacarme serait insupportable sans les protections. Théo rajuste son col au plus près du masque. Les pluies récentes ont lavé le sol, fait revenir le vert de l'herbe, mais les bourrasques chargées de sable ont vite rétabli leur emprise grise et ocre. Les buissons cliquetitent, des heurtes presque métalliques de leurs branches. Avant, Théo sortait souvent avec Maury pour ramener des échantillons à Pop, des graines ou de quoi faire des boutures. Yael en a gardé l'habitude. Recenser les végétaux qui existent encore, en préserver autant que possible, en cultiver certains. Son tracker en main, Yael s'éloigne des plaines battues par le vent en direction des collines, moins hostiles. Machinalement, Yael suit du doigt les itinéraires déjà parcourus et à quelle date, les plantes localisées, celles ramassées. Plus de 6 semaines sans aller à l'ancien cours d'eau, peut-être qu'il y a quelque chose à observer. Rapide calcul du trajet, et Théo est parti. Buisson ras et épineux, sifflement du vent. Est-ce une voie, là, entre les rafales? Roche nue ou vêtue de lichen épars et fragile. Il faut plus d'une heure de marche pour atteindre les environs du ruisseau. Les pierres roulent sous les pieds, les gravillons font glisser la béquille, le sable craque entre les dents malgré le masque. Théo suçote un peu d'eau pour le chasser. Son regard se perd dans les traces au sol, à guetter un signe de vie, mais la terre est trop sèche pour garder des empreintes. Même avec les gants, sa main se crispe sur la béquille, la douleur lui grignote jusqu'à l'épaule. Encore un sommet de colline à franchir. Si l'eau n'est plus accessible à l'air libre depuis des années, un bosquet s'est développé au fond de la combe. Pop avait planté un arbrisseau de saules pleureurs 7 ans plus tôt. Grâce à ses soins, puis ceux de Théo, il a vite poussé et pris une belle ampleur. La botaniste espérait que les racines ramèneraient de la vitalité à la surface. Mais personne n'avait envisagé ce que Théo découvre quand Thiel franchit la crête. Le ruisseau suinte sur plusieurs mètres avant de se rendormir dans la poussière. Les averses diluviennes semblent avoir regarni le réseau hydrographique de la région, assez pour permettre une résurgence. Autour de l'eau, les plantes prospèrent. Le sol verdoie plus que jamais, des mousses parsèment la rigole, des herbes s'agitent au soleil après des années de sommeil. Le miracle le plus superbe que Théo ait jamais contemplé. L'admiration laisse cependant immédiatement place au labeur. Récolter des échantillons d'eau, de terre et de végétaux, pester contre son genou récalcitrant, vérifier l'état du ruisseau, s'assurer qu'il peut s'accumuler et s'écouler aux bons endroits, espérer que les pluies reviennent assez vite pour continuer à le gonfler et enfin replanter quelques bâtonnets d'engrais au pied de l'arbre. Le retour lui arrache quelques grimaces sous son masque, mais rien ne peut voiler la joie tendre qui lui agite le cœur. L'arrivée d'Hermé tient toujours de la tornade, un déluge tendre et chaud, mais un déluge tout de même. Dès son entrée, elle bouscule les habitudes de Théo. Il lui faut abriter sa camionnette du vent sableux pour la nuit, sinon elle ne repartira jamais. Et puis elle a apporté de la viande, du pain du jour, du fromage, une belle lampe colorée des brocanteuses, une couverture qu'elle a tissée elle-même, des nouvelles de la ville, des humains et du monde, et elle se sert de l'eau fraîche parce que celle de sa gourde est tiède depuis des heures, et comment se portent les plantes? Soudain, la tempête s'estompe, elle regarde Théo dans les yeux, se tait, se penche, et les deux amantes s'embrassent. D'abord du bout des lèvres, puis du corps, des bras, des épaules. La tête qui cogne dans le cou pour se blottir tout contre, les doigts qui serrent, les joues qui se caressent et les nez qui se frôlent. Par habitude, Hermé malaxe les muscles endoloris de Théo qui laissent échapper des grognements de soulagement. Puissantes dans leur massage, ses mains sont si fines quand elles entourent celles de son amour, ongles vernis sur ongles noircis, polis et noirs contre peau tannée. « Tu as les mains de la même couleur que les collines, » chuchote Hermé. « Tu m'as manqué. » Même si la serre n'a pas beaucoup changé depuis sa dernière visite, Théo se fait une joie de lui montrer les améliorations, les réparations, les nouvelles pousses et les fleurs de saison. Elle déambule dans les petites allées et l'enthousiasme de Théo lui vaut de longs regards attendris. Pour examiner les bourgeons, la colporteuse attrape une loupe dans une de ses poches dissimulées. La plus grande fierté de Théo, c'est la menthe. Le parfum émerveille Hermé qui n'en a jamais senti. Elle en connaissait à peine le nom. À partir de maintenant, c'est mon odeur préférée. Je veux que tu m'en prépares toujours quand je viendrai, s'emballe-t-elle. Théo sourit et s'estime bien heureux que ce d'avoir ressuscité une plante qui pousse aussi facilement. Du safran franc aurait été bien plus compliqué. Hermé lui subtilise son couteau de ceinture pour prélever quelques brins qui disparaissent aussitôt dans les profondeurs de son manteau. Même si elle ne passe plus qu'en tant que visiteuse, elle garde les habitudes de son ancienne vie avec Théo. Ses gestes précis n'ont pas changé, bien que ses mains aient vieilli. Le soir, leur repas est calme. Dans la pénombre, leurs voix se font chuchoter. Elle négocie la future couvée de poussins, à quelle date Hermé doit revenir avec de quoi les transporter. La colporteuse lui promet d'apporter un microscope pour remplacer celui dont les lentilles sont fendues. Théo savoure le fromage qu'elle casse avant de le mâchonner par petites miettes. La tasse brûlante entre ses mains, Hermé hume sans se lasser la tisane de menthe. Elle joue à taquiner du Théo du verbe et du bout des doigts, mais plus la soirée avance, plus l'humeur de celui-ci se dissout, s'éparpille en fumerolles lourdes et noires. Théo, ça fait combien d'années que tu vis seul? Tu ne vois que moi? Tu ne tournerais pas un peu en rond ici? D'abord, Théo voudrait se braquer, se défendre bec et ongles. Sa solitude fait partie intégrante de son caractère. Mais devant le regard pénétrant d'Hermé, son argumentaire se disloque. La colporteuse lui manque amèrement depuis son départ, après la mort de Maury, et l'humanité plus encore, mais Yel peine à lui trouver de l'intérêt. Je ne sais pas. J'aime ma solitude, elle est importante pour moi, mais je crois qu'elle me pèse souvent ces temps-ci. Même les plus solitaires ont parfois besoin de leur semblable. Théo acquiesce à la banalité réconfortante. Pourquoi tu ne montes pas en ville? Eh bien, je dois m'occuper de la serre, de mes poules. Quelqu'un pourrait le faire pour toi. J'ai des petites jeunes de la botanique qui seraient ravies d'apprendre et de t'aider à entretenir quand tu as envie de la ville. Qu'est-ce que tu évites vraiment? À une époque, Théo se serait fâché, mais Yel a accepté la nature intrusive d'Hermé, surtout qu'elle lui pose souvent des questions intéressantes, et généralement de façon brusque, à lui remuer les tripes. Après la chute mortelle de Maury, le caractère vif d'Hermé a percuté la dépression de Théo, et elles se sont séparées, à regret, pour s'épargner. Hermé a rejoint le monde des vivants, tandis que Théo est resté à entretenir la tombe de ses épouses. Yel sait qu'elle a toutes les solutions en main pour pouvoir se rendre en ville. Pourquoi ne jamais, jamais y aller? Les mots tombent de sa bouche, comme du plomb. Je crois que je n'ai rien à y faire. Je voudrais peut-être visiter l'Institut de botanique, mais je crois que c'est pop, ça, que je le fais juste pour s'en souvenir. Et Maury m'a toujours parlé de la chapelle Notre-Dame-des-Sables, mais c'est pas tout à fait moi, ces envies. Je ne sais pas ce que je voudrais faire en ville, je ne connais plus personne là-bas, ou plus personne que je veuille voir, à part toi. Et qu'est-ce que j'y ferais? En plus, moi, je n'ai rien à apporter au monde, rien à dire, rien à partager. Silence. Les fumerolles de son humeur se transforment en ruisseaux épais et boueux, et, bientôt, la pièce s'emplit de larmes jamais versées et de la puanteur des cœurs rancis. Hermé repousse les sombres suintements d'une main posée sur le genou de Théo. Prendre leur distance leur a permis de se rapprocher. Maintenant, Hermé peut l'atteindre à travers sa mélancolie sans s'engluer dedans. Tu as vraiment la sensation de ne rien apporter? De ne rien m'apporter? À moi? Yel ouvre la bouche, sent que sa réponse n'est pas la bonne, mais n'en trouve pas d'autre. Hermé la devance. Tout à l'heure, la tisane que tu m'as fait découvrir était fantastique. J'adore quand tu me montres la serre. Ta maison est un véritable refuge pour le cœur et je m'y sens toujours bien. Larmes dans la gorge, larmes au coin des yeux. La douleur fuse dans son corps, tristesse des muscles et des os, avec ses hanches qui râpent et ses côtes qui griffent. Tu dis ça maintenant, mais tu es parti parce que tu étais mal, à cause de moi, lâche Théo, qui regrette aussitôt l'amertume de ses paroles. Pardon. C'est vieux, c'est idiot. Je sais que tu as fait ce qui était le mieux. Mais tout ce qui est bien ici, ça vient de Pop et Maury. Moi, je n'ai rien apporté depuis des années. Les sanglots éclatent dans tout son corps. Hermé enlève sa main pour la libérer. Les bras de Théo se serrent à se fendre, puis s'ouvrent et battent contre lui-même. Ses doigts se ruent dans ses cheveux longs. Yel se recroqueville, glisse de sa chaise. Du bout des doigts, Yel lance le signal. Hermé s'assied à côté de lui, l'enlace et la presse contre elle. Bientôt, les pleurs de Théo s'apaisent. Yel se roule contre la colporteuse, le visage dans le creux de son cou. Ses membres évacuent la crise par grands tremblements de chair. Le temps s'étire sans fin, jusqu'au calme. Hermée prend sa voix la plus basse et la plus douce. D'où crois-tu que m'en vient mon tissage, ma conduite, mon sens des affaires? Rien ne vient spontanément de moi. Nous sommes la somme de ce que les autres versent en nous et nous en créons des choses entièrement nouvelles. Quand tu nous lisais de la poésie, Amaury et moi, tu nourrissais notre imaginaire et certains vers sont en moi pour toujours, grâce à toi. Vois-toi comme une plante. Tu ne pourrais pas grandir sans terreau. Tu ne pourrais pas fleurir sans eau. Mais est-ce moins beau pour autant? La serre et la maison sont toujours debout grâce à toi. La menthe, elle vient de toi. Tout ça avec le travail de Pop et Maury. Mais sans toi, il n'y aurait plus rien ici. Et sans toi, le projet ne serait pas né non plus. Trop épuisé pour vraiment répondre, pour vraiment penser, Théo claque des dents en balbutiant. Peut-être. Pour le reste, Yael se souvient à peine avoir rejoint le lit. Yael ressent juste le poids des couvertures, la chaleur d'Hermée. Peau nue contre peau nue. Dans leurs odeurs entremêlées, il y a quelque chose de la meute ou du terrier. Sommeil noir, lourd et sans rêve. Leur matinée est douce. Petit déjeuner sans bouger du lit, se recoucher, s'enlacer, s'embrasser, se regarder, masser pour chasser les douleurs et pour le plaisir, parler et encore y rire, puis, à regret, se lever. Déjà, Hermée doit repartir. Elle reviendra bientôt pour les poussins. Dès que sa camionnette a disparu, Théo enfile sa tenue d'expédition. Hors de question de rester à ruminer dans la maison, à ressasser les souvenirs poussiéreux et à se languir de la prochaine visite d'Hermée. Et elle voudrait recueillir de nouveaux prélèvements à la source et vérifier qu'elle continue de couler. Sac, canne pliante, manteau et masque, et elle évacue sa frustration et sa tristesse à chaque pas martelé. La douleur dans sa jambe murmure dans ses os, dans ses articulations, bourdonne dans ses muscles, mais elle ne fait qu'alimenter sa rage contre elle-même. Sa vie n'a plus de sens depuis la mort de Maury et Pop, et Yael se demande si elle en avait beaucoup plus avant. Yael a toujours vécu autour des autres. La chaleur lui donne des vertiges, ses oreilles bruissent du vent et pulsent sous sa capuche. Le sac pèse trop lourd. Les sangles lui scient les muscles en deux, râpent ses clavicules. Tout son corps se fait viande douloureuse et os strident. Sa solitude lui paraît soudainement insupportable et écrasante. Les mots d'Hermée s'entrechoquent dans sa tête et Théo trouve son réconfort dans les habitudes de Pop, dans leurs sentiers et leurs recoins, les allers-retours pour revenir chercher le matériel qu'elle oubliait invariablement. Pourtant, là aussi, la souffrance rampe dans les souvenirs, avec les longues siestes épuisées de la botaniste à l'ombre de leur tente. Même dans ces moments-là, elle remplissait ses carnets, comme une revanche ou une rédemption après ses années dans la chimie agricole. Théo ne partageait pas son calme, et elle aurait voulu brûler les usines alors depuis longtemps en ruine, et Maury aurait traîné les coupables devant tous les tribunaux à sa portée s'ils n'étaient pas morts eux aussi. Maintenant, et elle comprend un peu mieux et se sent reflet d'une défunte, fantôme hors du monde. Et elle s'écroule au pied du saule, ses yeux se dessillent et sa tristesse s'évanouit. Et elle s'en veut déjà d'avoir forcé, et toutes les recommandations de bienveillance envers soi lui reviennent. Boire, se masser les cuisses, avaler ses antidouleurs. La marche l'a toujours calmée, mais là, c'était de la rage contre soi, et c'était se faire mal pour ressaisir un semblant de contrôle et de contact avec le monde. Théo respire, se pose pour se rappeler les techniques d'ancrage. Dépasser le réflexe de se blesser, regagner le réflexe de se retrouver. Regarder autour de soi, trouver 5 choses sur lesquelles se fixer. Le ruisseau coule encore. Le sol jette des ombres mouvantes entre ses chaussures poussiéreuses. Une pierre particulièrement rouge et, à côté, une plante au ras du sol, étrange, incongrue, aux fleurs d'un violet profond et éclatant. Théo a failli l'écraser en s'asseyant. Elle paraît déplacée, même dans ce creux de verdure. Par sa forme buissonnante, sa couleur, sa disposition. Sans feuilles, seulement constituées de ces corolles serrées les unes contre les autres. Ces pétales améthystes en forme de griffes de chat jaillissent d'écailles blanchâtres. Elle tient de l'orchidée, peut-être ? Si elle n'a pas de feuilles, elle ne produit pas sa propre chlorophylle. Est-elle parasite ? Dangereuse pour le sol ? Faut-il l'arracher ? À moins qu'elle ne soit carnivore. Théo s'empresse de cueillir une des fleurs, à sa pointe, comme une gouttelette suspendue. Elle a la panse charnue, mais vide de tout insecte. Sa couleur détonne, superbe. Carnet de croquis, appareil photo, maître ruban. Théo a tôt fait de la décrire sous toutes ses coutures et n'a plus qu'une hâte, rentrer et découvrir qui elle est. Sont-ce les crises émotionnelles des derniers jours et la tension induite, un changement hygrométrique ou peut-être un contre-coup des efforts physiques inconscients de la veille ? Théo n'en sait rien. Tout ce qu'elle sait, c'est que son corps l'a fait terriblement souffrir. Pulse, lance, grignote et morcelle. Trop de douleur pour se lever. Et la faim ravive la douleur, mais trop de douleur pour aller se nourrir. Broie, chauffe, tord et tire. La cartographie du plafond s'imprime au fond de ses yeux. Atteindre sa tasse d'eau, ses antalgiques et un livre. Se remercier d'avoir stocké une boîte de gâteaux secs à portée. Laisser les sensations refluer, pulse, lance. Et se rappeler de ne pas détester son corps. Grignote et morcelle. Il fait ce qu'il peut. Il fait même beaucoup. Broie, chauffe. Il faut s'accorder du temps. Tord et tire. Et respecter son rythme. Yel n'aurait pas dû se malmener pour évacuer ses émotions, mais c'est trop tard. Rien de mieux à faire qu'attendre et prendre soin de toutes ces braises de souffrance. C'est frustrant et rageant, mais il est encore plus inutile de rager contre soi-même et de forcer au-delà de ses limites. Il faut endurer le repos. Après de très longues dizaines de minutes, les médicaments font effet. Théo peut commencer sa routine. Deux béquilles, doucement, avec beaucoup de pauses. Les poules lui accordent un câlin malgré leur impatience pour leur repas. L'air de la serre est tiède sur ses articulations et les plantes caressent ses mains en baisers compatissants. En sueur, Théo retourne à son lit et à ses antidouleurs. Une pile de livres à ses côtés, une bouillotte sous chaque genou. Quitte à ne pas bouger du reste de la journée, Yel est bien décidé à découvrir les origines de la fleur mystérieuse au pied du saule. Difficile d'en trouver une trace, elle se fait aussi discrète entre les pages qu'entre les collines. Ce n'est ni une campanule, ni une linaire. Peut-être est-ce une plante exotique importée accidentellement par Maury et Hermé ? Théo les avait accompagnés pour leur expédition et s'était juré de ne plus jamais se laisser coincer entre ces deux forts caractères, mais Yel n'a jamais été très douée pour tenir ses promesses. Un sourire naît sur ses lèvres. L'après-midi s'effrite en soirée au son des pages tournées. Lasse de chercher son inconnue Violette, Théo dépoussière un vieux recueil de poésie pour se reposer les méninges à la recherche des strophes les plus fleuries. Les mots lui glissent des doigts, puis de la bouche, et Yel se retrouve à déclamer des vers qu'elle avait presque oubliés. Et, si tu veux plaire aux sereines déesses, entoure l'autel des souffles de l'été. Elles souriront, ainsi que leur prêtresse, à ta piété. Porte à l'Artémis les sombres violettes, à l'Aphrodita le pourpre des iris, à Perséphona vierge aux lèvres muettes, la langueur des lys. Sappho, Ode, traduction par René Vivien. Ses pensées gagnent en clarté à chaque syllabe. Son esprit s'apaise un peu plus après chaque vers. Pourquoi les livres ont-ils quitté ses journées et son cœur ? À quel moment sa passion s'est-elle éteinte ? Sa vocation était sur les routes, à transmettre les histoires du vieux temps, à enseigner les secrets cachés et les amours d'antan. Avec ses mots et ceux des autres, Yel en avait changé des vies, à commencer par la sienne. C'était de sa voix basse et de ses poèmes qu'elle avait charmé Pop, qui lui avait ensuite présenté Maury. Yel pouvait apaiser les tornades intérieures de Maury et canaliser la distraite Pop par de simples paroles, parfois chantées, toujours choisies avec soin. Quelle époque douce en comparaison de ces temps amers, même si elle avait ses houles et ses tempêtes, même si le monde tombait en miettes. Et elle se souvient des soirées où les habitantes de la ferme se regroupaient autour d'elle lui pour écouter ses histoires, espérant que sa voix couvre celle du vent qui ne se taisait jamais. C'était presque toujours les mêmes. Peut-être est-ce le deuil, la fatigue, les tiraillements du corps, mais elle ne parvient pas à retrouver les premiers mots. Théo pousse un profond soupir. Au prix de quelques grognements de douleur, elle abandonne le recueil de poésie et le troque contre celui de conte. Avec sa couverture en faux cuir, il devrait être facile à trouver, mais la bibliothèque n'a pas été rangée pendant des années et les livres ont été pris et reposés au hasard. La poussière lui pique les yeux tandis qu'elle tire des ouvrages pour vérifier derrière. Ses doigts retrouvent la texture lisse, mais ce n'est pas le recueil de contes. Pour fêter l'inauguration de la ferme, Maury avait offert à Pop un traité de botanique, magnifique, mais déjà obsolète à l'époque. Théo l'avait remisé, réminiscence trop douloureuse. Yel ne lui a pas rendu justice et les pages de papier glacé se collent les unes aux autres. En le rouvrant, Yel retrouve le souvenir des soirées passées à le feuilleter, blottie entre Pop et Maury. Peut-être que sa passion pour les plantes lui apparaît comme un vulgaire ersatz de celle de Pop, parce que la passion de Pop n'est plus là pour être un reflet de la sienne. Elle n'est plus là pour montrer leurs différences et leurs divergences. Oui, Pop lui a beaucoup enseigné et elle se percevait simple apprentie. Mais Théo réalise qu'elle a fait germer cette passion à travers elle lui-même pour en faire son propre intérêt. Yel se laisse tomber sur le lit et feuillette distraitement l'ouvrage, à la recherche des notes surprises que disséminait Pop dans toutes ses lectures. Celles au crayon ont presque disparu, chuchotements fantômes, mais d'autres sont encore là, pleines de l'humour acide de la botaniste. Certaines annotent le texte ou les illustrations, mais d'autres n'ont aucun rapport. Théo lâche un rire en retrouvant « Offrir une belle édition du Chat des Landes à Théo ». Et en se souvenant de l'air dépité de Pop quand elle s'était rendue compte qu'il manquait plusieurs pages à son cadeau. Une des feuilles est presque entièrement remplie dans les marges de notes rageuses, l'encre empâtée par les larmes. Difficile de dire si elles accompagnent l'annonce de son cancer, mais c'est beaucoup, c'est trop. Théo referme le livre pendant un instant, secoué de sanglots, mais il passe aussi vite que la pluie sur les coteaux et elle reprend son feuilletage. Une photo lui attire l'œil et Yel croit reconnaître sa plante inconnue, mais ce n'est en fait qu'un muscari. Yel retourne au début de la catégorie, puis fouille dans le sommaire pour trouver à quoi elle pourrait correspondre. Rien aux asparagales ni aux orchidées. Caquettement étouffé des poules endormies, bruissement des pages et des draps, chuchotement du vent, la nuit pétille autour de Théo. Ses pensées fusent et cherchent des indices entre les mots, dans les zones sombres des images. Ses poignets lui font mal, le livre pèse. Mais il regorge de tellement de références que, aux alentours de minuit, Théo finit par dénicher son inconnue, la lattrée clandestine. Pourtant, ce n'est pas cohérent. Ne poussant qu'un milieu humide, la toute juste nommée ne devrait pas avoir survécu, ne devrait même pas s'être développée. Témoin privilégié d'un miracle, Théo décide de remiser ses certitudes et de continuer à lire. L'absence de feuilles l'avait intrigué et son hypothèse de parasitisme se confirme en partie puisque la nouvelle venue se base sur le commensalisme pour subsister. Elle se nourrit sur les arbres sans leur nuire grâce à ses racines dotées de suçoirs. Une illustration figure celle-ci comme un ensemble tentaculaire et écailleux. Théo lui trouve quelque chose de magnifiquement monstrueux. Malgré l'apparence de ses corolles, la lattrée n'a rien de carnivore, mais ses sucres sont très appréciés des insectes. Si Théo ne l'avait pas remarqué à sa première visite, c'est parce qu'elle se cache. Avant que ses fleurs n'éclosent, elle se dissimule dans des calices blanchâtres, facilement camouflés par le reste de la végétation ou les feuilles mortes du sol. Une plante surréelle de par sa nature qui n'aurait même pas dû être là. Elle apporte à Théo un réconfort étrange, presque mystique. Les mots d'Hermé y sont pour beaucoup. La vase remuée ne retombe pas et épaissit l'eau, mais elle renferme des trésors. Se nourrir des autres sans leur nuire, développer ses propres fruits parce que l'on s'enrichit à leur contact, se cacher jusqu'à refleurir. La solitude lui a aussi appris à exister par lui-même. Lors de la prochaine visite d'Hermée, Théo lui reparlera de tout ça. Il y a tant de choses à discuter et à organiser. Et elle a des connaissances inédites à transmettre aux botanistes de la ville, et elle veut apprendre, et elle veut dire et raconter. L'itinérance et les histoires lui manquent, et il y a là de nouveaux rameaux à leur ajouter. Et puis la ferme. C'était leur projet, leur passion, à elles trois. Mais le lieu a toujours été tourné vers l'extérieur. Théo l'a confiné, l'a sanctifié en croyant le préserver par devoir, alors que ses seules obligations auraient dû être de le faire continuer à vivre, à bruire. Un espace de repos et d'apprentissage, comme à ses meilleures époques. Il est temps de renouer avec cette vision originelle et de se rouvrir au monde, puisqu'on ne protège rien en l'enfermant. La calme agitation en lui pétille au bout de ses doigts. Elle demande à s'exprimer. Dans la marge, entre la photo et le bord du livre, Théo croque en quelques mots le contenu de son cœur. Certaines choses s'endorment et restent cachées, mais elles existent toujours, sous le sable, sous la cendre. J'existe toujours.
Merci d'avoir écouté cette lecture. Si elle vous a plu, vous pouvez retrouver cette nouvelle et bien d'autres dans le recueil Histoire de fleurs, publié aux éditions Ibi. N'hésitez pas à partager ce podcast si le cœur vous en dit.